espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés en espérance. Or, une espérance qu'on voit n'est pas une espérance. Car ce que quelqu'un voit, pourquoi aussi l'espère-t-il? Mais si ce que nous ne voyons pas, nous l'espérons, nous l'attendons avec patience. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Qui intentera accusation contre des élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui est aussi intercède pour nous. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation ou détresse ou persécution ou famine ou nudité ou péril ou épée? Selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous ferons une pause à 15h30 et nous irons au rythme de ce que le Seigneur conduira. Et on s'arrêtera quand ce sera l'heure.
Peut-être que beaucoup l'ignorent, mais il y a 65 ans, peut-être plus, mais pas moins, 65 ans, un jour de Pâques, ici à Clairac, dans le local, c'était toute la journée, eh bien on a étudié le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Voilà, alors je m'en souviens comme si c'était hier, bien sûr, mais je pense que depuis on a dû réétudier ce chapitre, mais ça nous montre combien les années passent et les générations passent. Les besoins sont les mêmes et la réponse à nos besoins est immuable. C'est la parole de Dieu, lampe à notre pied, lumière à notre sentier. Et nous pouvons être reconnaissants que cette parole est là, à notre disposition. Et nous sommes reconnaissants aussi de ce que, jeunes et moins jeunes, nous avons eu à cœur de nous réunir pour nous pencher sur ces Écritures qui est véritablement la parole de Dieu.
Alors je ne sais pas comment on peut continuer après l'introduction de notre frère, mais voilà, donc 65 ans plus tard, on se retrouve devant un texte qui a l'air de nous dire, eh bien, c'est... Voilà, il faut souffrir. Et puis pourtant, c'est une lettre qui a commencé par le fait que Paul, il va annoncer l'évangile de Dieu, touchant son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il annonce une bonne nouvelle, et puis voilà, ça parle de souffrance. Quelle bonne nouvelle! Donc il y a quelque chose qui va pas trop. Moi, les bonnes nouvelles, c'est quand on va bien, on est en bonne santé, Alors, qu'est-ce qui se passe entre ce que l'apôtre Paul a envie de dire et puis ce qu'il nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce que nos frères pourront mieux que moi expliquer tout ça, mais simplement que la bonne nouvelle, c'est que l'homme qui va être convaincu qu'il est coupable, qu'il n'est pas bien, qu'il n'est pas bon, n'est pas rejeté, mais Dieu veut le prendre là où il est, lui faire comprendre dans quel état il se trouve pour le transformer. Un homme qui est dans les liens, on peut dire, un homme qui est comme esclave, qui n'est pas libre de ses mouvements, qui n'est pas heureux. Et voilà, cette bonne nouvelle va nous apprendre que par Jésus-Christ, l'homme sur la terre peut devenir heureux. Son intérieur va être transformé, va être changé. Celui qui était coupable, il va être justifié. Et dans sa vie de tous les jours, il va pouvoir être sanctifié. Il est mis à part et puis dans sa vie, voilà, il va être transformé progressivement aussi, changé. Oui, il va être vraiment libéré. Mais nous découvrons que cet homme libéré, mais libéré dans sa relation avec Dieu, ce grand Dieu des cieux et de la terre qui voit tout, ce Dieu saint, libre, relation libre, cet homme vit encore dans un environnement qui n'est pas délivré. Et là, il y a un problème. Alors, est-ce que Dieu n'a pas finalement tout réussi ? Un peu de changer mon intérieur, et puis voyez l'extérieur, ça dépérit. On a parlé de temples qui blanchissent. Alors, nous apprendrons que ce qui a été commencé va s'achever. Si l'intérieur de l'homme peut être transformé, libéré, illuminé, l'environnement dans lequel l'homme changé, nouveau, se meut, peut être également changé. Il y a un moment où sera tout transformé. Mais en attendant ce moment, est-ce qu'il faut se dire, eh bien, débrouillons-nous, on va essayer de s'en sortir. Eh bien, on apprend dans ce chapitre qu'on a lu qu'il y a des ressources. Que celui qui a commencé son œuvre dans notre cœur, dans notre être intérieur, nous donne jour après jour des forces. Pourquoi ? Parce que la finalité, ce n'est pas la souffrance que l'homme a amenée par son péché. La finalité, c'est la gloire, la grande libération, la révélation des fils de Dieu, et on y viendra. L'adoption, la gloire des enfants de Dieu. Et avec cette révélation-là aussi, le changement de cette nature qui souffre. Donc voilà, Dieu annonce une bonne nouvelle. Nous sommes déjà changés, sans doute, ce sera important d'y revenir un petit peu. Mais nous sommes provisoirement dans une terre, sur une terre, où c'est difficile de vivre chaque jour, mais avec des ressources extraordinaires. Alors, peut-être dans ce chapitre, quatre choses qui nous sont révélées, et je m'arrête. La première chose, qui sommes-nous ? Nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Eh bien, nous sommes, dans le paragraphe qui précède notre lecture, nous sommes des enfants de Dieu. Et même chose extraordinaire, nous pouvons dire, je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Dans cet environnement difficile, j'ai ça. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, c'est vrai, nous sommes dans un environnement de souffrance. Mais ces souffrances-là sont dues à ce fait que la terre souffre du péché. On y reviendra. La troisième chose, discerner la main de Dieu. Ça sera surtout dans notre dernier paragraphe, la main de Dieu. Voilà, je ne suis pas seul, je suis son enfant, la main de Dieu. Et en fin de compte, pourquoi suis-je sur la terre ? Parce que j'apprends une chose. Une chose que tous les hommes, toutes les femmes du monde veulent connaître. Une chose dont nous avons un besoin extraordinaire. J'ai besoin d'être aimé. Eh bien oui, dans ce chapitre, on apprendra que nous sommes tous aimés.
de raccrocher ce que vient de nous dire Philippe à la structure de l'épître aux Romains. Alors, on ne va pas reprendre l'étude, hein, soyez tranquilles de toute cette épître, mais quand même en introduction, cette bonne nouvelle que nous avons dans l'épître aux Romains, chapitre 1er, l'évangile de Dieu, verset 3, il est touchant son Fils. Et écouter la bonne nouvelle, c'est mieux connaître Christ, c'est mieux vivre avec Christ. L'apôtre suit un raisonnement qui est d'une clarté remarquable. Il va dire d'abord que tous les hommes sont coupables, que ce soit des gens qui vivent sans Dieu, que ce soit des gens qui ont une morale, que ce soit des gens qui ont une religion, on est tous condamnés devant Dieu, mais la bonne nouvelle est là, c'est le salut par la foi, et c'est ce qu'on trouve à la fin du chapitre 3, Christ verset 25. Verset 25, Christ est la propitiation par la foi en son sang. Verset 26, celui qui est de la foi de Jésus est justifié. Et le chapitre 4 explique ce que c'est que cette justification. Nous sommes déclarés justes devant Dieu. Alors, c'est formidable, on est sauvés. Et ce salut, c'est quelque chose d'extraordinaire. Début du chapitre 5, verset 2, nous avons accès auprès de Dieu, nous sommes dans la faveur de Dieu. Oui, mais ça se vit dans les difficultés. Et c'est la suite du passage, chapitre 5, verset 3, nous nous glorifions dans les tribulations. Le salut que Dieu nous donne, il est parfait, il est assuré, et ça marche même quand on a des difficultés sur la terre. Parce qu'au travers de ces difficultés, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs, chapitre 5, verset 5. Alors, deuxième partie de cette épître, tous ceux qui appartiennent au Seigneur se sont rendus compte que un jour ils ont eu l'assurance du salut, et le lendemain ils ont péché, et ils se sont dit, mince, est-ce que je suis vraiment sauvé? Qu'est-ce qui se passe en moi? Christ m'a sauvé et puis je pêche encore. Et alors, à partir du chapitre 6, il y a cet apprentissage, cette démonstration que nous sommes morts avec Christ et que nous avons une vie nouvelle, que la force du péché en nous est quelque chose qui a été brisé et que nous pouvons nous remettre pleinement entre les mains de Christ pour vivre à lui. C'est au chapitre 6, verset 13, « Livrez-vous vous-même à Dieu ». Comme d'entre les morts étant fait vivant. Alors, ce n'est pas toujours facile à réaliser, quelquefois on lutte beaucoup, c'est pour ça qu'il y a le chapitre 7. Mais le jour où on dit « Seigneur Jésus, je veux te glorifier, j'y arrive pas, il faut que tu m'aides », alors ce jour-là, il nous aide et c'est une victoire. Et le chapitre 8 dans lequel nous arrivons est pour cette victoire. Il y a une plénitude de la vie par l'esprit qui est... qui est lié d'une part à la certitude paisible du salut, chapitre 8, verset 1er, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, mais il y a aussi cette relation avec Dieu. Nous avons reçu, verset 15, l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa, Père ». Et la joie et la puissance de l'action de l'esprit en nous est quelque chose qui transforme notre vie. Alors vous allez me dire, Élie, tu nous décris quelque chose là qui est bien, qui est magnifique, mais est-ce que c'est toujours comme ça? Mais comme précédemment, l'apôtre va dire que ça marche aussi au travers des difficultés. Le salut marche malgré les épreuves, heureusement d'ailleurs, mais cette vie forte avec Christ marche même si nous soupirons, même si nous sommes dans un environnement difficile. Et je trouve ça extraordinaire, parce que quelquefois on sort d'une réunion en disant « Ah, c'est formidable ce que Dieu a fait pour nous. Oui, mais j'y arrive pas. Oui, c'est difficile autour de moi, je vais sans doute ne pas y arriver. » Le passage est là pour nous dire que dans une vie difficile, que ce soit au collège, que ce soit à la fac, que ce soit à l'atelier, que ce soit dans les champs, que ce soit à la maison, oui, c'est difficile, oui, nous soupirons, mais il y a vraiment une délivrance, une victoire avec Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la conclusion du passage, et Philippe était arrivé là-dessus, mais verset 35, « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. » Alors la parole est là, magnifique. Nous a donné le salut, il y a cette transformation intérieure vécue par la présence du Saint-Esprit en nous, et puis ça marche même au travers des difficultés. Et Dieu est là pour nous tenir par la main, pour que notre vie soit une vie de victoire et de joie en Christ. Et que la méditation de ces passages nous aide dans ce sens-là.
On peut peut-être parfois avoir des illusions. Et parfois des personnes qui viennent au Seigneur Jésus pensent que tout est réglé et qu'à partir de ce jour-là, il n'y aura plus de problème. Et il y a des gens qui enseignent cela aussi. Quand vous avez cru au Seigneur Jésus, alors tous vos problèmes sont résolus. Tout va aller bien. Il n'y a qu'un problème qu'ils ont oublié, c'est qu'on est sur la terre. Et que le Seigneur Jésus n'a pas du tout dit ça. Les dernières paroles du Seigneur Jésus, à la fin de l'évangile, du chapitre 16 de l'évangile de Jean, c'est « Vous avez ou vous aurez de la tribulation sur la terre, mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. » Il ne nous a pas promis que sur la terre ce sera toujours facile. Il y a des tribulations sur la terre, mais lui a vaincu le monde, mais il est avec nous. Parce qu'aussi, ses dernières paroles dans l'évangile selon Matthieu, c'est « Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle ». Et puis alors dans ce chapitre, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que l'on garde dans nos cœurs, le début du chapitre, je vais un peu répéter, nous parle de libération. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Alors, tu es dans le Christ Jésus quand tu as cru au Seigneur Jésus. Tu es protégé. Tu ne peux plus être condamné. À ce sujet, j'aimerais peut-être raconter une histoire. Je m'excuse pour les Bordelais qui ont dû l'entendre. Mais il y a quelque temps, j'ai une petite fille qui arrive et qui parle à une de ses jeunes, une amie qui venait dans un club d'enfants. Et cette petite enfant, ses parents avaient décidé de ne plus l'amener au club d'enfants. Alors, Valentine lui dit, écoute, tu dois bien te souvenir que Dieu ne punit pas. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien non, si on te dit que Dieu punit, alors ce n'est pas juste. Alors, je dis, mais pourquoi tu dis ça? Et parce qu'il est amour. C'est un amour que toi l'as dit. Mais il est amour. Et puis quand on a demandé un peu plus, elle dit, mais attends, la condamnation, la punition, c'est le Seigneur Jésus qui l'a eu. Et s'il te punissait à nouveau, ça ne serait pas juste. Et je crois que Valentine avait bien compris cela. Ne jamais oublier qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, parce que le Seigneur Jésus a été condamné à notre place. Et puis, il y a une deuxième chose, nous avons le Saint-Esprit en nous. Ce Saint-Esprit nous libère. Il est la puissance qui nous libère de la puissance du péché. Et puis, il y a devant nous une espérance, la résurrection. Puisque l'Esprit de Jésus est en nous, nous serons ressuscités. Et puis, en attendant, quelle est notre identité? Est-ce que nous sommes des pécheurs? Des pécheurs sauvés? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que la parole de Dieu nous dit cela? Non, nous n'avons plus de condamnation. Elle parle ailleurs de saints. Et nous sommes des saints qui malheureusement péchons. Et à ce moment-là, un saint qui pêche, c'est peut-être plus grave qu'un pécheur qui reste toujours dans le péché. Et puis, dans le passage qu'on a, qu'est-ce qu'on est? On a une position. Nous sommes fils de Dieu. Tous ceux qui ont l'Esprit, c'est ce qu'on a au verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Ça, c'est ta position. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Et puis, cette position, il faut que tu la réalises. Et par l'Esprit qui te fait, je répète un peu ce qu'a dit Élie tout à l'heure, qui te fait crier Abba Père, eh bien tu réalises ta relation avec Dieu comme enfant de Dieu. Une position, un fils. Une relation, un enfant de Dieu. Et des conséquences, eh bien tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Ce week-end, on a avec les jeunes, on a, on a été occupé de la première épître de Pierre. Et dans le premier chapitre, eh bien, il est question de cet héritage. Nous allons vers un héritage que Dieu garde pour nous dans le ciel. Et puis, pour aller vers cet héritage, Dieu nous garde sur la terre pour arriver là-bas. Alors nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Mais il y a toujours ce fait qu'on est sur la terre. Et sur la terre, la création, le monde dans lequel on est, sous les conséquences du péché. Et puis, dans le système dans lequel on vit, eh bien, le chef de ce monde, c'est Satan. Mais déjà, la nature, la création en elle-même, est sous les conséquences du péché. Et il y a, sur la terre, aujourd'hui, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des deuils, il y a des choses qui sont difficiles. Et nous sommes appelés à vivre comme fils de Dieu, enfant de Dieu, co-héritier de Dieu, dans ces circonstances-là. Et c'est aussi un des thèmes de ce chapitre, et d'une certaine manière, dans la suite du chapitre que l'on a, l'Esprit de Dieu nous ouvre un peu le secret. Le secret, c'est que nous ne sommes pas seuls pour vivre là. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui, on va le voir, qui intercède pour nous. Nous ne sommes pas seuls parce que Jésus intercède pour nous auprès du Père. Nous ne sommes pas seuls parce que Dieu est pour nous. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et si déjà, aujourd'hui, en partant, cela a été ravivé dans nos cœurs, que l'Esprit de Dieu intercède pour nous, que Jésus intercède pour nous, que Dieu est pour nous, et que son amour ne change pas, et que rien ne peut nous séparer de cela, alors déjà peut-être qu'il y aura de la joie dans nos cœurs et de la force pour marcher.
On pourrait peut-être dire, je vais être très court, je pense qu'il vaut mieux que les interventions ne soient pas trop longues pour que tout le monde puisse participer. Alors, je voulais simplement dire, quand Dieu travaille pour nous, c'est parfait. Par le Seigneur, l'œuvre a été accomplie, unique, suffisante. Tout le travail de Dieu pour nous, ça ne peut pas être imparfait, c'est absolument achevé. Tout ce que Dieu commence, il le finit. Et puis il y a le travail de Dieu en nous. Alors le travail de Dieu en nous, évidemment, ça implique aussi notre personnalité, notre réceptivité. Et il est évident que ce travail n'est pas évident et surtout n'est pas... il faut peut-être toute la vie pour que ce travail en nous s'accomplisse. Voilà, c'est important ça. Dieu travaille pour nous, c'est fait, il a travaillé, nous sommes délivrés de la condamnation du péché. Car il y a trois délivrances. Il y a la délivrance de la condamnation du péché. Plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et puis, il y a la délivrance de la puissance du péché. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui peut le réaliser. Mais dans la mesure où l'Esprit Saint n'est pas attristé ni contristé. Mais nous pouvons être délivrés de la puissance du péché. La chair ne peut pas. La chair est absolument condamnée. D'ailleurs, la chair n'est pas pardonnée. Nous sommes pardonnés de nos péchés, mais la chair est condamnée. C'est ce que nous lisons. Dieu a envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché, pour le péché. Il a condamné le péché dans la chair. Notre chair n'est pas pardonnée, notre chair est incurable, inaméliorable. Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'y a pas de bien. Et dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre dit « Je n'ai pas confiance en ma chair ». Alors nous sommes délivrés de la condamnation du péché. Nous pouvons, si nous sommes spirituels, et si nous sommes dans l'exercice de la piété, être délivrés de la puissance du péché, et jouir de cette victoire dont parle l'apôtre, qui dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, mais si nous sommes vainqueurs, c'est par celui qui nous a aimés ». Et puis, la troisième délivrance, les futures, c'est la présence du péché. Et évidemment, nous sommes dans ce monde de violence, de corruption. Nous avons échappé à la corruption qui est en ce monde par la convoitise, nous avons échappé à cela, mais nous y sommes. Nous sommes un peu comme Lot dans la présence, nous ne pouvons que tourmenter notre âme, nous ne pouvons pas être indifférents à cette présence terrible du péché, dont, mais nous sommes séparés, nous ne sommes pas du monde. Et cette délivrance, nous l'avons décrite dans les premiers versets que nous avons lus. Voilà ce que je voulais simplement dire maintenant.
Parce que dans notre texte, il y a deux souffrances, ou enfin, une distinction entre la souffrance des croyants et la souffrance de la création, incorporé la souffrance des incrédules. Et donc cette souffrance engendre un besoin de guérison ou de paix ou de fin de souffrance. Alors le croyant sait quel est son but, et que ce but sera d'être avec le Seigneur dans la gloire, et que la fin de la Bible nous le dit, plus de deuil, plus de cris, plus de larmes, plus de souffrance. Et puis Dieu veut nous montrer que même dans cette création qui souffre par le péché de ceux des hommes qui vivent au-dessus, mais aussi qui la dégradent, il y aura, quand le Seigneur viendra, une délivrance pour entendre cette souffrance de la création. Et on a bien des textes des prophètes de l'Ancien Testament qui nous en parlent.
Il y a tout un cheminement dont l'épître entière, d'une part, est dans la portion qui est devant nous, d'autre part, qui nous invite, d'une manière répétée, mais pleine de consolation, d'encouragement, et propre à affirmer les certitudes de la foi. Et Dieu nous invite à saisir ce qui le concerne dans son travail pour nous et ce qui nous concerne dans notre situation sur la terre. Et plus nous avançons en recevant ce que Dieu nous dit, plus nous découvrons ce que Dieu affirme de son travail à lui, de son dessein et de ce qu'il va atteindre, plus nous sommes dirigés vers ce qui est positif. Et ce que nous découvrons avec une force particulière, c'est que plus nous regardons ce dont Dieu s'occupe et ce qu'il maîtrise parfaitement, plus nous sommes libérés. Et la grosse difficulté pour les chrétiens, c'est justement de s'encombrer de tout un tas de choses. Alors, une petite explication a été demandée, en particulier pour l'expression de la fin du verset 19, qu'il faut mettre en relation avec la fin du verset 21. Je lis dans le livre de la Genèse, au moment de la création, à la fin du chapitre 1er, au verset 31, donc de ce chapitre 1er, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Puis, je lis le chapitre 3, je vois l'intervention de quelqu'un qui veut essayer de tout saccager, et dans ce même chapitre 3, après une description tout à fait claire de cette intervention ennemie destructrice, je trouve « maudit est le sol à cause de toi », etc., ce qui engendre tout un tas de conséquences. J'arrive ici dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, et j'entends parler d'une création qui attend la révélation des fils de Dieu, d'une création qui subit quelque chose, et le livre des psaumes nous parle de d'une création qui chante quand elle est libérée. Mais ici, elle souffre, elle subit malgré elle quelque chose, et nous, dans notre élément naturel, nous subissons malgré nous quelque chose. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu pour nous ouvrir les yeux sur les ressources de Dieu, de manière que nous ne regardions pas ces choses qui nous tirent toujours vers le bas. Entre parenthèses, au début du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, nous sommes invités non pas à fixer nos yeux sur ces choses-là. Quand on tourne sur ce qui est noir, on devient finalement, progressivement, gris puis noir. Mais fixant les yeux sur Jésus, les choses sont toutes changées. Quand on regarde la lumière et qu'on laisse la lumière agir, eh bien l'Épître aux Éphésiens nous dit que tout est mis en évidence. On n'a pas peur de la lumière. Au contraire, on se tient dans la lumière parce que là, on n'a rien à cacher. C'est le domaine de la puissance de Dieu, c'est le domaine de l'action de Dieu, et là, tout est beau et satisfaisant. Alors, à la fin du verset 21, la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu.